Il voulait dissoudre la frontière entre l'art et la vie et que le beau soit partout. Les paroles de Victor Vasarely, celui qui, à la fin des années 60, va faire entrer l'art cinétique un petit peu dans tous nos intérieurs. Avec une large pincée de musique de ces années-là dans ce bain de culture, eh bien nous serons avec Philippe Dana, homme de radio, de télévision, écrivain. Il signe ce livre sur Victor Vasarely, une saga dans le siècle. Lui aussi a marqué son siècle de son style, reconnaissable entre tous, catogan en blanc, lunettes noires légèrement fumées, mitaine en cuir, un accent aussi inimitable dans ce bain de culture. Nous allons revenir sur le parcours de Karl Lagerfeld, disparu en tout début de semaine. Ce sera aussi en musique, sur la musique bien sûr de ses défilés Chanel dont il a été le directeur artistique pendant plus de 35 ans. C'est bain de culture, excellent dimanche.
Midi, bain de culture avec Florence Blanc.
Merci de nous retrouver dans ce bain de culture. Il est passé par ici, mais oui, par nos studios de Tanger. Il est journaliste, il est animateur, il est producteur, il écrit aussi des livres et il aime Tanger, où il passe de longs moments, peut-être pour écrire. Philippe Dana, bonjour.
Bonjour Florence.
Alors Philippe, vous êtes avec nous dans nos studios. Merci d'être là ce dimanche matin.
C'est un plaisir.
Pour ce livre, une biographie en fait, que vous venez donc de faire paraître, l'artiste Victor Vasarely. Le livre s'appelle « Une saga dans le siècle ». Vous ne l'avez pas écrit tout seul, vous l'avez écrit. C'est un livre co-écrit avec le petit-fils Pierre Vasarely. Alors, je vais essayer de dépeindre un petit peu Victor Vasarely. Vous allez m'arrêter si ça ne va pas. Victor Vasarely, c'est l'un des maîtres fondateurs de l'art cinétique, de l'art optique. C'est un petit peu le pape des ronds et des carrés de couleurs. Ça va jusque-là ?
Exact, tout à fait exact.
C'est une véritable star, une star des années 70. Du Vasarely, on en trouvait partout à l'époque. Certains logos, certains décors de plateaux de télévision sur des murs en papier peint, du torchon à la serviette, à la pochette de disque, il a presque tout fait. Il s'est même retrouvé dans une gare de Paris. Alors, Philippe Dana, vous venez donc d'écrire cette biographie. Moi, je voulais juste savoir comment, en fait, vous aviez rencontré le sujet, Victor Vasarely, l'énorme sujet.
Alors, j'ai rencontré Victor Vasarely par l'intermédiaire, il est mort en 1997, oui. Mais je l'ai rencontré par l'intermédiaire de son petit-fils, donc qui est Pierre Vasarely, qui est aujourd'hui le président de la Fondation Vasarely, qui est installée à Aix-en-Provence. C'est là que se trouve le centre architectonique qui a été inauguré en 1976 et qui est un peu l'aboutissement ultime du travail de Victor Vasarely. Je ne connaissais pas très bien l'œuvre de Vasarely quand Philippe Robinet, mon éditeur chez Kalman Levy, m'a proposé de travailler sur le sujet. Je m'y suis plongé et je me suis plongé dans toute l'histoire au fond du XXe siècle et dans toutes les marques artistiques qui ont marqué le XXe siècle. Et donc j'ai passé beaucoup de temps à faire des recherches, à plonger dans les archives des journaux, des télés, des radios, pour me familiariser avec cet artiste qui, vous l'avez dit, a été un artiste absolument majeur du XXe siècle, même si depuis sa disparition, il a connu un peu de passage à vide, parce que, il faut le dire aussi, il y a eu une longue guerre de succession après son décès, qui a opposé la famille d'abord au président de l'université d'Aix-Marseille, Charles de Bâche, puis la famille s'est un peu déchirée entre elles.
Beaucoup.
Et tout ça a mis des années à se régler. C'est souvent d'ailleurs le cas avec de grands artistes de l'art contemporain. Il y a souvent eu des problèmes de succession. Là, il y en a eu un, encore une fois.
Majeur.
Mais On vient d'ouvrir à Beaubourg depuis 15 jours une exposition Vasarely qui est un succès phénoménal. C'est-à-dire qu'ils ne s'attendaient pas du tout à avoir des files d'attente de 2 heures avant de pouvoir pénétrer à l'intérieur des salles et de voir l'expo.
Bain de culture avec Florence Blanc.
Pendant très longtemps, j'ai poursuivi mes recherches. À un moment donné, j'avais la révélation d'une nouvelle direction de la plasticité dans un monde qui change, qui évolue grâce aux découvertes, à la technologie.
Victor Vasarely, en fait, il n'était pas peintre hein, au début, il était plasticien, publicitaire. Il est hongrois, il va arriver à Paris avec sa femme. Il a des enfants ensuite, il en a deux. Il a travaillé comme graphiste hein, chez Havas. Et en fait, il a basé toute sa carrière sur l'illusion, sur l'optique. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire que Vasarely, en fait, était plus... il n'aimait pas, en tout cas, il a mis de côté ce qu'on appelait la fameuse peinture sur chevalet. Mmh. Il était plus scientifique, plus mathématicien, physicien. Il cherchait tout le temps là-dedans. Et c'est là où il va exploser.
Tout ça est exact, absolument exact. En fait, il a démarré comme graphiste pour des agences de publicité. Mmh. Alors, il est né en Hongrie, à Pécs, dans le sud de la Hongrie. À l'époque, c'était l'Empire austro-hongrois. Oui. Et il y a eu ensuite, pour la famille, un mouvement vers Postienne, qui se trouve en Slovaquie aujourd'hui. Il faut dire qu'à l'époque, juste après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de mouvements de population en Europe centrale. Bref, Victor Vasarely a commencé sa vie de jeune étudiant à Budapest dans les années 20. Il a suivi l'enseignement d'un maître qui s'appelle Sándor Bortnik. Alors, et ce Sándor Bortnik, lui, était allé chercher l'enseignement du Bauhaus à Weimar en Allemagne. Le Bauhaus, c'est un mouvement qui a marqué les années 30 parce que le Bauhaus mêlait des artistes de toutes sortes, des photographes, des plasticiens, des architectes, pour bâtir une cité un peu idéale. Il y a aujourd'hui des traces du Bauhaus dans des gratte-ciels qu'on trouve à Chicago ou des immeubles très connus qu'on voit à Tel Aviv en Israël. Et le Bauhaus, finalement, s'est exporté. Et ce fameux Sándor Bortnik, le professeur de Vasarely, a ouvert une école à Budapest dans les années 20 qui s'appelle le Műhely. Et c'est au Műhely que Vasarely a fait ses premiers pas, avant de quitter Budapest au début de 1930 pour gagner Paris, où il a ensuite vécu jusqu'à la fin de sa vie. Enfin, en grande partie jusqu'à
la France,
fin de sa vie.
Oui,
en France.
À la fin de sa vie. Est-ce qu'on peut...
Et pour répondre à votre question, parce que je n'ai pas répondu, c'est vrai que sa grande patte a été de mettre de côté la peinture de chevalet, de s'élever un peu opposition à la peinture de chevalet et de se diriger vers l'abstraction géométrique et donc de faire des mouvements d'illusion optique avec des lignes parallèles, des couleurs blanc, noir, des cercles, des carrés, des ellipses. De faire une œuvre qui est totalement abstraite, mais qui était totalement novatrice à l'époque. Il y avait très peu qui étaient allés sur l'abstraction,
oui.
Même si lui était inspiré par les constructivistes russes, notamment menés par Malevitch. Il était également très influencé par Cézanne, et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si la fondation Vasarely aujourd'hui est à Aix, qui est la terre d'expression de Cézanne.
On ne contemple plus une toile cinétique. On passe devant l'effet foudroyant, l'effet imminent.
Pour nos auditeurs, parce que quand on dit Vasarely, grand pape, je disais de l'art cinétique, des ronds et des carrés, c'est pas très gentil de dire ça. Je crois que l'un de ses premiers tableaux, c'est les zèbres. Hein. C'est ça, les zèbres en noir et blanc. Ça a vraiment... C'était un animal, et en fin de compte, il le peignait, dépeignait d'une façon qui était complètement...
qui apportait l'illusion optique. Il faut dire que les premiers travaux de Vasarely, disons juste avant la Seconde Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, il tâtonne, il cherche sa voie. Et donc c'est seulement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1945-46, qu'a lieu sa première expo chez Denise René. Alors Denise René, c'est un personnage dont il faut dire quelques mots, c'est sa galeriste attitrée, c'est une femme qu'il a rencontrée juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale au Café de Flore à Paris, qui a été aussi une longue histoire d'amour pour lui alors qu'il était marié. Et Denise René, ensuite, et Vasarely ont fondé une sorte d'équipe à deux. Et
petite entreprise, comme on dit.
Cette galerie du 124 rue La Boétie a été le lieu de rassemblement de tous ceux qui se retrouvaient dans l'art abstrait, l'art géométrique. Denise René et Victor Vasarely en étaient les chefs d'équipe, on va dire, mais qui rassemblaient beaucoup d'autres peintres. Alors, pas tous les citer, mais Jacobsen, Mortensen, De Van, Desrolles, etc. Et lorsque la première expo a lieu, c'est Jacques Prévert qui fait un texte fondateur Imaginoire, dans lequel il parle de Vasarely. Et là, le nom de Vasarely commence à être un peu connu. Et tout ça va monter
en
pendant
puissance,
une dizaine d'années. Il va y avoir des voyages pour lui à Belle-Île, à Gordes, où il va, justement en observant les paysages, travailler sur les mouvements de forme et donc sur les illusions d'optique. Et puis,
à chaque fois, il revient de ses voyages en disant « je suis plein d'images et il travaille ».
Et là, ça va aller crescendo. Et donc c'est jusqu'à 1955. Là, Vasarely commence à être très connu. D'abord parce qu'il expose à la galerie Denise René avec un texte fondateur qui s'appelle le Manifeste Jaune, une expo qui s'appelle Le Mouvement.
Je crois que l'homme qui a besoin de respirer de l'oxygène, de manger des vitamines et des protéines, n'est-ce pas, il a également besoin d'avoir une satisfaction, vous voyez, pour l'œil.
Il est également impliqué dans un mouvement qui est justement très intéressant, parce que c'est l'aboutissement de ce que lui prône, c'est-à-dire un art social, un art visible par tous. Et donc,
oui, il
est contacté
qu'il
par...
pour les pauvres, pardon de dire ça comme ça. Il dit, je veux vendre aux riches, mais je veux peindre pour les pauvres.
Oui, il était profondément communiste.
Communiste, oui.
Et il est contacté par le président de l'université de Caracas au Venezuela, un type qui a un nom... prédestiné, il s'appelle Villanueva. Et Villanueva, pour cette université de Caracas, il fait appel à des artistes venus du monde entier. Donc il y a Fernand Léger, il y a Calder qui fait justement le plafond d'un auditorium de 2700 places, il y a Vasarely. Donc tous ces artistes contribuent à apporter du beau à l'intérieur de bâtiments publics qui normalement sont bétonnés, gris, sans aucune fantaisie. Eux, leur credo, c'est vraiment de faire de l'art pour tous et de faire entrer le beau dans la cité. Évidemment, ça fait partie des utopies du XXe siècle.
Et non, vous n'y couperez pas une petite pincée de musique des années 70 dans ce bain de culture, alors que nous sommes avec Philippe Dana, homme de radio, de télévision, écrivain aussi. Il signe ce livre sur Victor Vasarely, une saga dans le siècle. Vasarely qui a imprimé sa patte et surtout nos rétines dans les années 60-70. L'inventeur de l'art optique, de la perspective, de nos yeux qui partent en vrille, des carrés, des ronds de toutes les couleurs, des formes qui prennent de l'ampleur. Vasarely voulait que le beau soit partout. Et c'est lui, en fait, qui va se retrouver partout. Il redessine le logo de Renault. À l'époque, c'est lui aussi qui va orner l'un des murs de la gare Montparnasse, ou bien les serviettes de bain, ou même les torchons. Vasarely, qui est invité à New York ensuite pour une exposition, Philippe Dana.
On est en plein milieu des années 60 et une fois encore, il y a une exposition qui est fondatrice. Elle se déroule au MoMA à New York.
À New York.
Elle s'appelle Responsive Eye. Responsive Eye, c'est un peu la suite du mouvement et c'est la réunion de tous ces artistes qui sont dans l'abstraction géométrique. Alors, ils viennent du monde entier. Bon, évidemment, les Américains sont présents en masse, mais Vasarely est le porte-drapeau des Européens avec Denise René. C'est une expo qui est fondatrice, d'abord parce qu'il y a quelque chose qui m'a vraiment beaucoup amusé, c'est que cette expo a été filmée et elle a fait l'objet d'un court-métrage. Et l'auteur
et
de ce court-métrage,
qui
signe là l'un de ses premiers films, c'est le grand metteur en scène américain Brian De Palma, qui donc filme l'expo. Alors, on n'y voit pas dans le film de Palma Vasarely, on voit des œuvres de Vasarely, mais on voit apparaître des personnages qui aujourd'hui sont très connus, comme David Hockney, qui a été cette année l'artiste le plus vendu au monde, l'artiste vivant le plus vendu au monde et qui à l'époque est un jeune artiste. Donc l'exposition Responsive Eye est suivie par un mouvement planétaire autour de ce qu'on appelle, et ce que vous avez cité en ouverture, l'op art.
Oui.
Hein, et à ce moment-là, le commerce s'y met, c'est-à-dire que Denise René, qui est l'associée de Vasarely, a compris aussi ce qu'on peut exploiter avec ça, donc elle crée des
multiples. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est... Désolé, mais
donc
tout
le monde a du Vasarely. Quand on va dans les grands magasins Oupim en Italie, Bloomingdale's à New York, ou Prise Unique en France...
Ou les Galeries Lafayette.
En 1966, ça, le chiffre est incroyable, en 1966... 15% des articles vendus chez Prise Unique, qui est un grand, grand magasin à l'époque à Paris, sont signés Vasarely. Ça va des serviettes de toilette, en passant par le papier peint, en passant par les assiettes. Il y a du Vasarely partout jusqu'à l'excès. En même temps, aux États-Unis, il a l'apparition d'un autre mouvement important qui se développe en parallèle, qui est le pop art avec Warhol. Et moi, je me suis dit que finalement, il y avait une sorte de match États-Unis-Europe, mais les États-Unis sont représentés par Andy Warhol, qui lui-même est d'origine européenne. Warhol, c'est le pape du pop art. Il est entouré d'une réputation un peu sulfureuse.
Alors
c'est
que
le prince de la nuit.
Tout, hein.
Absolument pas. Autour de Warhol, il y a Lou Reed, il y a Mick Jagger, il y a David Bowie. Autour de Vasarely, ben, il y a une vie très rangée à Annay-sur-Marne, en Seine-et-Marne, près de Paris, avec sa femme Claire. Il y a évidemment quelques artistes qui passent, mais ce sont les artistes français. Il y a Johnny qui vient se faire photographier, il y a Antoine, il y a les Charlots. Bon, c'est deux
oui,
mondes très différents.
Oui, Vasarely qui dit qu'il écoute Nicoletta. Enfin bon, bref, il n'y a rien de sulfureux là-dedans.
Non, rien de sulfureux. Et en même temps, il y a pour Vasarely en Europe une cote qui n'arrête pas de monter et qui va arriver à son aboutissement ultime, qui est un premier musée à Gordes,
dans le sud
d'Avignon,
de la France. Oui.
Et puis l'inauguration en 1976 de cette immense fondation de ce centre d'Aix-en-Provence.
Peut-être que les gens qui passent sur l'autoroute en arrivant...
Ah ben on peut pas la manquer,
elle
est d'ailleurs signalée sur l'autoroute. Take a walk on the wild side, and the colored girls go do 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 do.
On parlait de la fondation Vasarely à Aix-en-Provence, fondation au cœur d'une sordide affaire d'héritage de famille. Vous avez coécrit ce livre avec le petit-fils, hein, Pierre Vasarely, légataire universel. Très souvent à la fondation où sont conservés donc tous les travaux de son grand-père. Cela va des esquisses aux premières intentions, c'est-à-dire il y a des chiffres, des couleurs avant d'arriver à la toile finale.
On considère le numéro 1 ici, et quand on la met en relation avec la gamme, nous avons cette nuance ici. Le numéro 3, on le retrouve ici. Donc c'est l'association effectivement de ces couleurs et de ces formes géométriques qui va donner cet effet de gonflage. Il apparaît au grand jour que l'art informatique est une évidence pour tout le monde. Mais avant cela, Vasarely y avait pensé avec son simple cerveau.
Voilà, Pierre Vasarely, donc petit-fils de Victor Vasarely, avec ce cerveau qui lui servait d'ordinateur avant l'heure. Nous retrouvons Philippe Dana sur ce livre, une saga dans le siècle consacré à Victor Vasarely.
Midi, un bain de culture avec Florence Blanc.
Vous avez donc travaillé avec l'unique petit-fils de Vasarely. C'est lui qui vous a demandé d'écrire tout ça. Enfin, comment vous avez
fouillé dans les cartons, avait vraiment envie que quelque chose de un peu important soit fait sur l'œuvre de son grand-père. En termes d'écriture d'un récit qui ne soit pas un livre d'art, c'est pas du tout l'objet.
Ah non, ça se lit très facilement.
C'est une histoire. Pierre m'a fourni m'a nourri d'informations que je ne pouvais pas connaître.
Les années 70 sont une véritable apogée pour Victor Vasarely. Son œuvre repose en fait sur plus de 10 000 œuvres. Il y aura ensuite, un petit peu plus tard, une longue traversée du désert. Vasarely, on l'a trop vu. Voilà ce qu'analyse Judith Benhamou, elle est journaliste.
Il a mal contrôlé sa production. C'est quelqu'un qui voulait que son œuvre entre dans toutes les maisons. Et finalement, la punition, d'une certaine manière, c'est ça. À trop produire, on lasse le regard. Et lorsqu'on lasse le regard, on n'a plus envie d'acheter.
Vasarely sur la touche, donc, pendant plus d'une vingtaine d'années, sa cote baisse. Sauf que, ce sont des regards tout neufs, des plus jeunes, qui, en ce début d'année 2019, lui font un triomphe. Là, il y a cette immense exposition qui se passe à Beaubourg, centre Georges Pompidou. On sait que le président de l'époque aimait beaucoup. Vasarely a fait beaucoup pour qu'il soit connu, exposé. Et vous dites que c'est un grand, grand succès. Ça veut dire qu'un petit peu la boucle est bouclée. On retrouve Vasarely, on re-regarde Vasarely
c'est
d'un
très
autre
juste
œil.
Parce que, et c'est important de parler de Georges Pompidou, donc le président de la République, parce que alors c'était un président de la République conservateur, 1969-1974. Et qui, en même temps, avec sa femme, Claude, avait un vrai goût pour l'art.
Ouais.
Il avait un soulage dans son bureau quand il était Premier ministre. Et quand il est arrivé à l'Élysée, c'est lui, avec son épouse, qui ont fait rentrer des artistes contemporains pour faire des meubles, pour faire des tableaux, enfin bref. Mmh. Et donc, Vasarely est devenu un ami du couple Pompidou. Et lorsque le centre Pompidou a été inauguré, après la mort de Georges Pompidou, eh bien, il y a eu cet immense portrait qui trône toujours et qui
en
est signé
Vasarely.
C'est effectivement une sorte de boucle qui est bouclée, parce que le succès de l'expo actuelle à Beaubourg, qui est vraiment phénoménal, montre qu'il y avait une envie des gens de changer d'univers dans un moment de nos sociétés qui est difficile. Toutes ces couleurs qui rentrent avec Vasarely, finalement, ça apporte un peu de ces utopies du XXe siècle qui sont joyeuses avant tout.
Vasarely est considéré aujourd'hui comme une espèce de pionnier de l'art numérique. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez bien un tableau de Vasarely, c'est une surface pixelisée en fait, avec donc des petits carrés, des petites quantités d'informations que lui-même d'ailleurs numérisait au sens propre du terme.
Mon œuvre doit exister dans la cité, dans la ville, prendre place plutôt que sur les cimaises des musées dans les bâtiments. Il a réalisé plus d'une centaine d'intégrations architecturales de par le monde au cours de sa carrière.
Voilà, Arnaud Pierre et Mathieu Gauthier, ce sont les deux commissaires de cette exposition rétrospective consacrée à Vasarely. Ça se passe évidemment au Centre Beaubourg, à Paris, du beau monde pour Victor Vasarely. Comme il y a un petit peu plus de 40 ans, cette fresque qui est inaugurée pour la radio RTL, c'est une scène entre guillemets qui ouvre votre livre, Philippe Dana. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque.
Cette inauguration, c'est toute l'époque qui vient, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le grand Magic Circus dans les rues, symbole de la contre-culture des années 60-70, et puis il y a les artistes vedettes du moment, c'est-à-dire Sheila, Joe Dassin, Claude François, qui viennent assister à cette inauguration. Voilà, donc j'ai traversé les années 70, les années 80, c'est le moment où Vasarely va rencontrer son rival, entre guillemets, Andy Warhol, à New York. Oui. Et puis les années 90 sont des années plus sombres, parce que Vazarelli vieillit, et puis les premières querelles arrivent. Mm-hmm. Et puis ensuite, voilà, ça se finit dans une querelle de succession compliquée.
Une saga dans le siècle, donc c'est votre dernier ouvrage, cette biographie de Victor Vazarelli. Vous êtes allé voir l'exposition à Beaubourg ?
Bien sûr, j'étais au vernissage. Il y avait foule et il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'intérêt. Je l'ai senti dans le regard des gens parce que l'expo est absolument magnifique.
Magnifique. 10 000 tableaux quand même, Vazarelli. Hein. Peut-être pas à Beaubourg en ce moment, non, certainement pas. Enfin, à son actif.
À son actif, il y a des centaines, des milliers d'œuvres.
D'accord. Donc à Beaubourg, c'est en ce moment. Ça s'appelle le partage des formes.
Partage des formes.
Et c'est jusqu'au mois de mai.
Absolument.
Philippe Dana, merci.
Mais merci à vous, Florent.
Du cinéma, beaucoup de cinéma ce week-end dans Ban Culture, mais aussi ces mitaines en cuir, cet éventail qui claque et qui s'est fermé en fait à tout jamais. Ban Culture ce dimanche, dans un instant, c'est Karl Lagerfeld, le Fespaco et les Césars.
À l'arrière des berlines, on devine les monarques et leurs figurines. Juste une paire de demi-dieux, livrés à eux. mercenaire à qui sourit la vie. Marcher sur l'eau, éviter les péages, jamais souffrir, juste faire hennir les chevaux du plaisir. Osez, osez, Joséphine, osez, osez, Joséphine, plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Usez le sourire, usez l'usurier, soyez ma muse. Et que ne dure que les moments doux, dure que les moments doux. Et que ne dure. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Osez, osez. Joséphine, osez, osez, Joséphine, plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie.
Bain de culture, cinéma.
On prend maintenant la direction de Ouagadougou avec le lancement, c'était hier, du FESPACO. C'est le festival de cinéma le plus ancien du continent, le plus couru, le plus connu, et c'est normal. Il fête ses 50 ans. Il s'est ouvert en grande pompe hier au grand stade de Ouagadougou avec en toile de fond, évidemment, toujours dans un petit coin de la tête, hein, ce contexte sécuritaire très particulier en ce moment au Burkina Faso. Notre correspondante Sophie Douce a suivi le coup d'envoi.
Fanfare, feu d'artifice, la cérémonie d'ouverture de la 26e édition du FESPACO était haute en couleurs ce samedi. Après la traditionnelle parade des cavaliers, les spectacles se sont succédés devant un public venu du monde entier. Au total, près de 20 000 visiteurs ont rempli les tribunes du stade municipal. Parmi eux, Delphine Nirbanga est émue. Elle attendait l'événement avec impatience.
Donc je peux dire que je suis fière que le FESPACO soit au Burkina. Je suis fière également que mon pays soit la capitale du cinéma. Et je suis aussi contente de voir qu'il y a plusieurs nationalités qui sont là. Malgré le contexte d'insécurité qu'il y a, les gens ont tenu à être là pour nous soutenir.
Ouagadougou, capitale du cinéma d'Afrique, mais aussi capitale meurtrie par 3 attentats en 3 ans. Alors sur scène, les discours officiels se sont multipliés pour faire du FESPACO un symbole de résistance face au terrorisme. Le ministre de la Culture burkinabé, Abdoul Karim Sango.
Votre présence parmi nous témoigne de notre capacité commune à résister et faire échec aux forces du mal par la magie du son et de l'image que le cinéma nous offre. Avec nos FDS et avec chacun de nous, le Burkina restera debout.
Rester debout malgré le contexte sécuritaire tendu au Burkina Faso, et l'enjeu est de taille pour assurer la sécurité du festival. Près de 2000 membres des forces de l'ordre ont été mobilisés pour l'occasion. Un événement hors norme donc, avec au total plus de 450 projections et plus de 100 000 visiteurs attendus.
Les premières projections au FESPACO commencent aujourd'hui. 20 longs métrages qui sont sélectionnés, donc tous signés par des réalisateurs du continent, dont 3 du Maghreb, 2 réalisateurs tunisiens et 1 réalisatrice marocaine. Le FESPACO, c'est pendant toute une semaine, et l'étalon de Yenenga, récompense suprême, sera remis. Ce sera samedi prochain. Un week-end dédié au cinéma, tout à l'heure à Hollywood, le coup d'envoi des Oscars. Alors ce sera dans l'après-midi, 17h, heure locale, en Californie, à Hollywood, mais évidemment, ce sera la nuit pour nous au Maghreb, avec donc peut-être une nuit blanche pour ceux qui ont envie de suivre l'événement. Vendredi soir, c'était la grande messe du cinéma français, 44e cérémonie des Césars, et c'est un drame qui a raflé la mise. Jusqu'à la garde, un huis clos familial étouffant, un divorce qui se déroule mal, très mal, une femme terrorisée par son mari qui instrumentalise aussi les enfants. Le film de Xavier Legrand, son premier long métrage, a donc décroché le César du meilleur film, meilleure actrice pour Léa Drucker.
Et je voudrais dédier cette récompense à toutes les Myriam, toutes ces femmes qui ne sont pas dans une fiction, qui sont dans cette tragique réalité. Et qui sont, je pense à toutes celles qui sont parties, celles qui veulent partir, celles qui ne partiront pas, celles qui auraient dû partir. Je pense à elles, je pense à toutes les personnes qui les accompagnent, leur famille, leur entourage, les associations qui ont trop peu de moyens et qu'il faut aider.
Je ne peux jamais jouer devant la maison ou dans le jardin, car on a peur que l'autre vienne. Quand il vient, je m'inquiète pour maman, parce qu'il veut juste lui faire du mal, juste ça, c'est pas un père, et c'est pour ça que je suis contente que mes parents divorcent. J'ai l'impression que vos enfants sont remontés contre vous, monsieur. Vous pouvez expliquer ça?
J'aimerais bien comprendre. Je sais pas ce qu'on leur met dans la tête.
Waouh, merci pour ce cadeau magnifique. Je tiens à remercier, bien sûr, toute mon équipe, mes acteurs, Léa, Denis. Merci. Tout simplement, je ne sais pas quoi vous dire, merci.
Xavier Legrand, le réalisateur très ému de Jusqu'à la garde, il repart aussi avec le César du meilleur scénario original et le meilleur montage. Alex Lutz, lui, a écrit, conçu, réalisé et joué aussi dans Guy. Il décroche d'ailleurs le César du meilleur rôle masculin, l'histoire d'un chanteur vieillissant, irascible, qui pourrait peut-être être le père de ce jeune homme qui, justement, tente de faire un documentaire sur lui.
C'est ma maman qui m'a soufflé l'idée de faire un portrait sur vous.
C'est une fan.
Ouais, elle vous aimait vraiment beaucoup.
Papa. Hé, hey, papa.
Vous vous sentez un peu dépassé des fois ou pas?
Dépassé?
Ouais.
Non.
Je crois pas que tu deviens artiste. Je crois que c'est un état d'âme. Moi, je sais pas si j'ai du talent, mais je sais que je suis un artiste. En tout cas, l'esprit, l'état d'âme, c'est sûr. C'est une colère.
J'aimerais remercier tous les acteurs parce que faire un rôle, ça marche s'il y a une troupe. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir inventer. Et j'aimerais qu'on n'ait pas peur et qu'on continue à inventer. Comme disait Cioran, dans un monde sans poésie, les rossignols se mettraient à rôter.
C'était bien, Guy.
Ouais.
Ouais, c'était bien.
Enchanté. Guy Jamais.
Alex Lutz, roi de la transformation dans ce film Guy, pour lequel il s'est vieilli de plus de 30 ans. Alors on parlait beaucoup pour ces Césars du Grand Bain de Gilles Lelouch. Le film n'a pas récolté les récompenses escomptées malgré un gros succès public. L'histoire de ces quadragénaires dépressifs qui se jettent à l'eau pour faire de la natation synchronisée. Philippe Catherine, l'un des comédiens, a décroché le César du meilleur second rôle pour son rôle de Thierry.
Va rejoindre tes potes. Est-ce que vous croyez que c'est comme ça que vous allez gagner?
On veut juste participer.
Pardon, j'ai pas entendu.
On veut juste participer.
Ça va pas.
Ça va pas quoi?
Rien.
Maintenant, on arrête de rigoler. Vous allez tous vous mettre en tenue, on va aller courir.
J'ai pas mes habits pour courir, là. Ah bon, on s'en fiche.
Thierry, c'est le personnage que j'ai eu l'honneur d'incarner dans le film. Thierry, moi je me demande toujours ce que deviennent les personnages après les films. Thierry, peut-être tu dois nous regarder à la télé, dans ton appartement attenant à la piscine municipale. Et ça fait bien plaisir, salut Thierry. Et écoute, c'est pour toi, parce que toi qui quand tu parles, on t'écoute pas. Toi, Thierry, on se moque souvent de toi, un peu facilement. Je me suis reconnu en toi et j'espère que tu t'es un peu reconnu en moi. Et je pense que tout le monde a quelque chose de Thierry. On a tous quelque chose de Thierry.
Enfin, il y a eu La surprise, la bonne surprise. Scheherazade et ses deux jeunes comédiens, Dylan Robert et Kenza Fortas, sacrés tous les deux meilleur espoir.
Ah, c'est pour toi ça, franchement.
Arrête, c'est une grosse cougar, elle.
Cadeau.
Elle.
Attends, mais je crois que je la connais, elle. Tu t'appelles Scheherazade ou quoi?
Ouais, je m'appelle Scheherazade.
Tu te rappelles pas?
Pourquoi les éducateurs, ils ont écrit que t'étais carrément partie pendant une journée? Si on t'éloigne pas, on va retomber dans les mêmes difficultés.
En fait, t'es comme les autres, je respecte pas les femmes.
Oulala, là là, tu sais de me la faire à l'envers ou quoi?
Voilà donc pour les Césars en France, les Oscars, je le répète, c'est cet après-midi en Californie, cette nuit, pour nous. Excellent week-end.
J'ai jamais fait ça, moi.
250
euros. Y'a pas de monnaie, les gars. Vas-y, on touche pas comme ça, tu vas toucher plein.
Bain de culture avec Florence Blanc.
Dans ce bain de culture, Christophe Godino, bonjour.
Bonjour Florence.
Alors on le sait, il avait des pudeurs de jeune fille pour dire son âge, Karl Lagerfeld a disparu, donc disparition de ce grand homme, c'était cette semaine.
Oui, il s'est éteint un mardi à l'âge de 85, 83, 84 ans, c'est pas très bien, car vous le disiez, Karl Lagerfeld, le facétieux, aura toujours entretenu le doute sur son année de naissance. On le savait, fatigué, malade, son absence à la fin des défilés Chanel en janvier dernier, il n'en avait raté aucun depuis son arrivée dans la célèbre maison de haute couture il y a 36 ans. Son absence des podiums en avait alerté plus d'un. Karl Lagerfeld s'est donc défilé. Et Aurélien de Vernoy, notre correspondant à Paris, est allé tendre son micro devant le magasin historique de Chanel au 31 rue Cambon.
Ah oui, oh, c'était un créateur génial. Hein. Ben, moi, je regrette parce que c'était pour nous, Chanel, dans le monde entier.
Je suis venue me recueillir ici car c'était une icône de mode pour Chanel, mais aussi pour Fendi. La face du monde de la mode va s'en trouver complètement changée.
Chaque fois qu'il venait dans la boutique où je travaille, ça me donnait des frissons car il était tellement gentil et humble. Il nous saluait tous, sans exception, dans le magasin. C'était un gentleman.
Karl était un gars ouvert d'esprit qui a beaucoup d'autodérision. Et les femmes, je me souviens, elles venaient, elles lui disaient « Karl, tu me dédicaces mon sac ?» Et il prenait un bic et dédicaçait sur le sac. Je disais « Waouh, c'est too much !» Il est très généreux pour ça.
Il avait un look depuis toujours très à lui.
Et c'est vrai qu'avec sa chevelure blanche, hein, tenue par un catogan, avec ses lunettes noires, ses hauts cols de chemise à midonnée, ses doigts couverts de bagues et son débit de mitraillette, le couturier allemand à l'allure de marquis rock'n'roll était reconnaissable entre tous. Mais le Kaiser de la mode, comme on le surnommait, était surtout un bourreau de travail. C'est ce que racontait cette semaine sur la chaîne France 5 Laurent Alain Caron, l'auteur du mystère Lagerfeld.
Jusqu'au bout, travailleur infatigable, c'était incroyable, c'était un bulldozer. En fait, ce qui est fou, c'est que depuis sa plus tendre enfance, il dessinait. C'était ça qui était le centre de sa vie. Petit garçon, il dessinait dans la chambre, en Allemagne, dans l'Allemagne nazie. Et finalement, toute sa vie, il a dessiné. C'était une sorte d'artisan, Karl Lagerfeld, travaillant pour plein de marques. C'était incroyable, il avait façonné finalement un personnage. C'était un logo, Lagerfeld, il disait « je suis Logofeld ». Et en même temps, voilà, il y avait cette espèce de protection ultime d'une sorte d'intimité. Voilà, il était très pudique en fait. Karl Lagerfeld.
Je suis Logofeld, voilà donc ce que disait le plus français des créateurs allemands. Et de fait, il savait mieux que quiconque jouer avec son image et surtout la vendre, se vendre avec un sens aigu du marketing. La journaliste Raphaël Baquet a consacré un reportage biographique en 6 volets sur Karl Lagerfeld, paru dans le journal Le Monde l'été dernier.
Il a compris en fait Karl Lagerfeld, peut-être mieux que tous les autres, qu'il fallait vendre aussi une image, un logo. Et il a fait de lui-même, si vous voulez, l'image justement d'espèce de vitrine et de lui-même un logo. Hein. Vous-même, vous pourriez le dessiner. C'est vraiment une queue de cheval, des lunettes noires, un col blanc et un costume noir et c'est fait. Et donc, il a effectivement construit de toutes pièces cette silhouette et il en a fait un logo. Et après, il n'a fait que vendre son image partout. Et en ce sens, il a vraiment un sens, si vous voulez, de la mondialisation, de l'économie. C'est lui-même un très grand patron pour sa propre carrière.
Karl Lagerfeld, roi du marketing, l'intéressé qui adorait brouiller les pistes, s'en était défendu lors d'une des innombrables interviews qu'il avait accordées.
Tout ce que je fais, ça vient spontanément. Je ne fais pas de marketing, je ne réfléchis pas, je suis une espèce de Jeanne d'Arc du chiffon et c'est tout.
Voilà, la Jeanne d'Arc du chiffon, c'était aussi ça, hein, Karl Lagerfeld, le sens de la formule, de la petite phrase, de la punchline, le bon client comme on dit sur les plateaux télé après. Faut pas oublier le génie créateur de celui qui très tôt sait qu'il travaillera dans la mode. Décembre 1949, sa mère l'emmène à un défilé Dior, c'est le déclic. 5 ans plus tard, il remporte un concours à Paris. Il finit premier ex aequo avec un jeune styliste alors inconnu, un certain Yves Saint-Laurent. Les deux hommes vont s'adorer, puis se détester. Ils seront à jamais les meilleurs ennemis. Alors Karl Lagerfeld, touche à tout génial, était à la tête de 3 marques, sa propre griffe, mais aussi Fendi depuis 1965 et surtout Chanel depuis 1983. Il se définissait avant tout comme un créateur libre.
J'ai de la chance d'avoir des clients, entre guillemets, extraordinaires. Je peux faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Vous savez, ça n'existe pas beaucoup. Ce n'est pas comme ces chaises musicales, au bout de 3 ans, la porte et tout ça. Moi, je fais ça à vie. C'est parce que j'ai des contrats à vie. Donc je dois crever sur place. Et en plus, je ne suis pas un directeur artistique. Je suis juste un designer. Je dessine tout moi-même. Ça ne m'intéresse pas qu'on me propose des trucs. Si ce n'est pas pondu pour moi, ça ne m'intéresse pas.
Une liberté qui le pousse à collaborer avec H&M en 2004, puis avec Vans quelques années plus tard. Il est aussi un metteur en scène génial des défilés Chanel, avec des décors chaque fois réinventés. On se souvient de ces mannequins déambulant dans un faux supermarché ou au milieu d'un parc éolien reconstitué. Vous me parliez également, Florence, hors antenne, d'un défilé sur une fausse banquise.
Oui,
il y a
vrai.
Également cette fusée de 30 mètres de haut installée à l'intérieur du Grand Palais à Paris. Et à chaque fois, ça fait le buzz et c'est bon pour le business de Chanel. Karl Lagerfeld travaille donc beaucoup, travaille vite et il parle vite, un débit de mitraillette qu'il doit à sa maman.
Je voulais les impressionner, surtout ma mère, par le fait que je parlais des langues, que je pouvais lire, que je pouvais décider et que j'avais, c'est pas aussi bête qu'elle disait, parce qu'elle disait toujours, écoute, parle plus vite pour les bêtises que tu dis, on ne peut pas prendre plus de temps. Donc j'ai appris à parler très vite et de faire un effort de dire des choses qui avaient vaguement un sens pour qu'elle ne me dise pas que c'est des bêtises que je disais.
Voilà, Karl Lagerfeld savait aussi jouer avec son image, parfois pour la bonne cause. On se souvient de cette affiche en 2008. C'est jaune, c'est moche, ça ne va avec rien et pourtant, ça peut vous sauver la vie. C'est une pub pour la sécurité routière et le créateur a enfilé pour l'occasion, ou sacrilège, un gilet jaune. Karl Lagerfeld, c'est aussi parfois des petites phrases pas très heureuses. Voilà ce qu'il dit en 2017 à propos de la politique migratoire de l'Allemagne qui a accueilli des millions de réfugiés.
On ne peut pas, et même s'il y a des cadres entre tuer des millions de juifs pour faire venir des millions de leurs pires ennemis après.
Voilà, pas très classe. Hein. Il a tenu aussi des propos polémiques sur les femmes rondes qui lui ont valu une plainte d'ailleurs. Voilà ce qu'il dit en 2009. Personne n'a envie de voir des femmes grosses sur les podiums. Pas forcément très élégant, surtout venant d'un homme qui, avant d'afficher une taille de guêpe, était un peu rondouillard lui aussi. Entre-temps, il a perdu 40 kilos. De sa vie privée, Florence, on ne sait pas grand-chose. Il était assez secret, très pudique et
très,
à l'entendre,
pudique, oui.
Il n'avait... depuis quelques années, qu'un seul amour, sa chatte Choupette.
Elle a sa propre petite fortune. S'il m'arrive quelque chose, c'est une héritière.
Mmh. Voilà, donc c'est Choupette qui va hériter de la fortune de Karl Lagerfeld. Enfin, ça, c'est la légende. Les hommages se sont multipliés. Voilà, notamment celui publié par l'Élysée. La haute couture, la mode, le goût français et européen perdent en ce jour l'un de leurs plus grands talents et leur plus célèbre ambassadeur.
Voilà, visiblement, il avait la dent dure, mais le cœur extrêmement tendre, d'après tout ce qui a été dit et rapporté sur lui. De nombreuses actrices, comédiennes l'ont rendu.
Moi, j'adore cette phrase qu'il disait sur la mode. Il disait: la mode n'est ni morale ni amorale. La mode, c'est fait pour remonter le moral.
Ah, il disait ça, Karl Lagerfeld.
Mais oui.
Merci, Christophe Godino. Excellente matinée avec nous. Nous sommes dimanche et c'est Bonne Culture.